Le journal de Sébastien Legénie, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, un potentiel Big Bang à l'hôpital. Le gouvernement réfléchit à de nouvelles façons de financer les soins et le possible paiement au forfait. Économie envisagée, 15 milliards d'euros, précision dans un instant. Une bonne couche de neige sur les routes de France, en Bourgogne, en Île-de-France, mais aussi dans le nord du pays. Nous serons à Amiens dans ce journal. Dans l'actualité également, Theresa May qui s'apprête à repartir négocier avec les Européens sur le Brexit, le Venezuela, quelques heures de manifestations, l'opposition dans tout le pays, les gilets jaunes d'outre-mer reçus par le gouvernement et des joueuses françaises de rugby de plus en plus professionnelles.
Monsieur le ministre chargé des collectivités territoriales, Sébastien Lecornu, invité de Léa Salamé, je vous le rappelle, dans 20 minutes à 7h50.
France Inter.
Et si l'on arrêtait, Sébastien, de payer l'hôpital à chaque opération?
En finir avec la fuite en avant de ce qu'on appelle le paiement à l'acte, un bobo, un soin, une facture, pas toujours efficace et surtout très cher. 30% des actes sont d'ailleurs considérés comme inutiles ou redondants. Alors l'une des solutions s'appelle le financement au forfait. Certains pays d'Europe du Nord expérimentent déjà le système. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, vient de recevoir un rapport sur le sujet, le rapport Robert, séduisant sur le papier, est plus compliqué dans la pratique. La ministre tranchera au printemps, Véronique Julia.
200 milliards d'euros de dépenses annuelles, c'est 12% du PIB. La France consacre beaucoup d'argent à la santé, mais sans toujours beaucoup de cohérence, de coordination et même de satisfaction. Le patient qui souffre de diabète peut ainsi se sentir très mal pris en charge, alors même qu'il multiplie les consultations. Un forfait, ce serait le paiement d'un soin global, d'une prise en charge dans son ensemble. Exemple, on paierait l'hôpital non plus pour une succession d'actes, mais pour le suivi au long cours d'un patient atteint de maladie chronique. L'hôpital payé au forfait aurait ainsi tout intérêt à ce que le patient soit bien géré en amont pour éviter des hospitalisations multiples et coûteuses. Dans le même esprit, un forfait pourrait s'appliquer à la prise en charge d'une séquence de soins, une intervention chirurgicale par exemple, suivie de rééducation. C'est une des hypothèses du rapport. Le forfait serait une somme que devraient se partager tous les professionnels impliqués dans la séquence. Chirurgiens, infirmières, kinés, médecins de ville. Une bonne idée sur le papier, réagit le président de la Confédération des syndicats médicaux français, Jean-Paul Ortiz, mais un vrai casse-tête en pratique.
Qui va gérer cette somme globale? Comment ça va se répartir entre les différents acteurs? Franchement, c'est pas simple.
Ce passage au forfait, s'il se concrétise, se fera via des expérimentations. Il ne sera pas généralisé du jour au lendemain et n'a pas vocation à remplacer non plus le paiement à l'acte. Il serait en fait une modalité de financement supplémentaire, comme le font déjà beaucoup de nos voisins.
Véronique Julia, spécialiste santé à France Inter.
7h33, on part maintenant sur les routes enneigées de France.
Oui, plus que 15 départements encore en vigilance orange, neige, verglas. Direction la Somme, dans le nord de la France, avec Benjamin Mathieu, reportage à Amiens, où il a neigé toute la nuit et où la matinée s'annonce glissante.
5 cm de neige, ce n'est pas énorme, mais bien suffisant pour changer le paysage et rendre Amiens méconnaissable. Encore peu de monde dans les rues endormies, quelques piétons qui circulent sur les trottoirs enneigés, quelques véhicules. Les routes sont relativement praticables dans le centre, et puis aussi quelques inconscients comme Amélie.
Je vais travailler au collège et je vais chez mon collègue parce que j'ai pas de train.
Et du coup, vous avez pris une trottinette électrique quand même?
Oui, pour aller chez mon collègue parce que sinon je vais être en retard.
Et ça va, ça glisse pas trop?
Un petit peu, mais ça va. Je suis obligé de partir beaucoup plus tôt parce que mon train normalement il est à 7h30 et là il est 6h30.
La neige qui a aussi des conséquences pour les livreurs de journaux. Frédéric da Fonseca Guerra distribue d'habitude la Voix du Nord et le courrier Picard avec sa camionnette. Ce matin, c'est très compliqué.
Il manque des journaux. Ça vient de Paris et comme il y a une interdiction de circulation sur les poids lourds, on peut pas tout assurer le service. Je suis chef d'entreprise avec 15 salariés. Je suis le seul à travailler. Tous mes autres salariés restent à la maison puisqu'ils tournent tous en tournée extérieure du 80, 62 et département 02. Donc c'est impraticable ce matin. On attendra la suite pour cet après-midi en espérant que ça fonde un petit peu.
Il y aura donc peu de journaux ce matin dans vos kiosques ou vos boîtes aux lettres à Amiens. Du côté de la mairie, une soixantaine d'agents sont réquisitionnés pour déneiger les trottoirs devant les bâtiments administratifs ou les établissements scolaires. La neige est collante, plutôt lourde et mouillée. Il ne gèle pas, il fait 2 degrés. Du coup, cette neige devrait rapidement être évacuée.
Le reportage de Benjamin Mathieu avec Romain Lucas à la technique. Un point sur la région parisienne à Paris où le trafic des bus est très perturbé. En revanche, trafic normal pour le métro RER A et RER B. C'est plus compliqué pour les Transiliens, les lignes C, D et E du RER. Des arbres sont tombés sur les voies. Pas de train aussi entre Mantes-la-Jolie et Évreux. Sur la Francilienne, gros ralentissement à cause des poids lourds. Et puis sachez que les transports scolaires sont suspendus dans tous les départements de la Grande Couronne, Yvelines, Essonne, Val-d'Oise et Seine-et-Marne. L'actualité, c'est aussi ce face-à-face hier soir entre trois gilets jaunes d'un côté et une ministre de l'autre, la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, qui a accepté de recevoir trois représentants du mouvement au ministère, dont l'une des figures des gilets jaunes, Priscilla Ludowski, originaire de la Martinique et qui voulait mettre sur la table la situation des ultramarins touchés par un chômage endémique, la vie chère ou de graves problèmes de pollution. À l'arrivée, une heure de réunion courtoise, mais pas de décision ferme. Reportage Rémi Brancato.
Les trois représentants des gilets jaunes se présentent en porte-parole de territoires d'outre-mer oubliés. Priscilla Ludowski dit recevoir des messages de Guadeloupe, de Martinique, de la Réunion, transmis à la ministre Annick Girardin.
Entre les sargasses, le glyphosate, le taux de chômage, les îles, elles vont couler à ce rythme-là.
Vous savez, quand je suis arrivée ici, je me suis dit, waouh, toutes les casseroles qui sont sur le feu, là, ils ont des gros couvercles, mais ça boue tellement qu'elles vont toutes péter en même temps. Eh ben, j'ai dit une chose, on va toutes les ouvrir, même si ça saute pas. Et je les ai toutes ouvertes.
La ministre s'était d'ailleurs rendue à la Réunion au plus fort de la crise début décembre. Elle rappelle aussi qu'elle a consulté 25 000 habitants pour les assises de l'outre-mer. Et le résultat est devant elle, un livre bleu, programme qui ne convainc pas de l'autre côté de la table.
Ce qui revient comme sujet souvent, c'est que les assises ont eu lieu, c'est vrai, mais qu'il n'y a rien qui est fait dans l'urgence. Et c'est le sujet.
Mais c'est faux. Il y a une chose que j'accepte, c'est que ça ne se fait pas assez vite. Mais pas qu'il n'y a rien de fait. C'est pas vrai.
La vie chère, l'environnement, même si le constat sur les problèmes est partagé, Priscilla Ludowski repart déçue.
Ça fait un moment que ces sujets-là sont connus. Donc pour moi, des mesures auraient déjà dû être mises en place depuis un certain temps.
La ministre, elle, se voit offrir un pin's gilet jaune par l'écrivain Philippe Pascaux.
Mais n'oubliez pas de mettre votre petit truc jaune. Non, mais je ne vous en voudrais pas, vous inquiétez pas.
Le dialogue doit se poursuivre à l'Élysée. Emmanuel Macron reçoit vendredi les maires des communes d'outre-mer.
Rémi Brancato, et puis toujours sur le dossier des gilets jaunes, a noté cette dernière étude de l'OFCE, Observatoire économique classé à gauche, et qui assure que les mesures annoncées par le gouvernement vont doper le pouvoir d'achat et stimuler la croissance. Un rééquilibrage massif en perspective en 2019, selon le think tank, en faveur des ménages les moins aisés. La croissance, dont on vient d'avoir les chiffre exact pour l'année 2018, plus 1,5%, une année en net repli donc par rapport à 2017 où la croissance avait atteint 2,3%. Voilà qui devrait satisfaire certains gilets jaunes, un pas de plus vers la taxation mondiale des GAFA. Les États-Unis, l'Europe, la Chine et l'Inde se sont mis d'accord pour revoir les règles fiscales, notamment concernant l'économie numérique. Et puisqu'on parle des GAFA, notons les résultats décevants d'Apple, plombés par les ventes en baisse de l'iPhone, moins 15% de chiffre d'affaires sur le produit phare de la marque.
7h38, négociations commerciales sous haute tension à Washington.
Un nouvel acte aujourd'hui afin d'éviter une guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Une délégation chinoise menée par le vice-premier ministre en personne se rendra à la Maison-Blanche avec pour objectif d'éviter de nouveaux droits de douane. Un nouveau drame de l'immigration, cette fois en mer Rouge. Deux embarcations de migrants ont fait naufrage au large de Djibouti. Hier, bilan 5 morts et 130 disparus. En mer Méditerranée, les Européens, eux, sont confrontés à une nouvelle affaire migratoire en cours. 47 migrants qui errent à bord d'un navire affrété par des humanitaires allemands, bloqué depuis près de 10 jours près de l'Italie. Hier, le président français Emmanuel Macron a poussé pour une solution rapide. C'était au sommet des 7 pays du sud de l'Europe, à Chypre. Sur place, les précisions de Bertrand Galichet.
Le navire de l'ONG allemande Sea-Watch s'est imposé hier au sommet de Chypre, où la question des migrants en Méditerranée était au programme. Emmanuel Macron y voit une illustration des défis à relever en commun pour les pays du sud de l'Europe, dont la France.
Au moment où nous parlons, un navire, le Sea-Watch 3, se trouve à proximité de la Sicile avec 47 migrants à bord. Nous l'avons évoqué également avec le Premier ministre italien. Je pense que cette solidarité dont nous parlons doit être appliquée de manière concrète, pleine et entière.
Le président milite pour un débarquement des migrants dans le port le plus proche, donc en Italie, et plaide pour une répartition de leur prise en charge. La France est prête à y participer. En remerciant les pays amis, le dirigeant italien Giuseppe Conte regrette le manque de réalisme de l'Europe. C'est une incapacité que nous déplorons tous, dit-il, en insistant sur la nécessité de trouver un mécanisme pérenne. Selon lui, l'Europe risque d'imploser parce qu'elle traîne pour trouver des solutions. Nicosie, Bertrand Galichet, France Inter.
Le retour de Nicolas Hulot à la tête de sa fondation, on vous le disait en début de semaine, l'ancien ministre de la transition énergétique reprend aujourd'hui officiellement la présidence d'honneur de sa fondation pour la nature et l'homme. Allez, on termine avec un mot de sport et de rugby féminin. Les hommes sont un peu dans les choux en ce moment. Les rugby women françaises, elles commencent leur tournoi des Six Nations samedi soir. Et à l'image des garçons, elles commencent aussi à se professionnaliser. On est loin du top 14, mais les femmes acquièrent progressivement un nouveau statut. Fanny Lechevestrier.
Fini l'amateurisme. Pour la première fois, les Bleus n'ont pas eu à poser des congés pour pouvoir préparer le tournoi. Depuis deux mois, 24 joueuses sont sous contrat à mi-temps avec la Fédération française de rugby. Une véritable révolution pour sa fille Ndiaye, 65 sélections en équipe de France. Mais dans la vie de tous les jours, éducatrice spécialisée à Montpellier, désormais elle ne travaille plus que 20 heures par semaine.
Personnellement, je peux m'entraîner beaucoup mieux, beaucoup plus. Je peux faire aussi autre chose à côté. Enfin voilà, ça a changé mon quotidien et je l'ai déjà vu sur le début de la saison. Mes performances aussi se sont améliorées.
Concrètement, chaque joueuse qui a une activité professionnelle voit son nombre d'heures de travail divisé par deux. Toutes touchent une rémunération tous les mois de la part de la fédération et bénéficient aussi du suivi d'un préparateur physique. Un semi-professionnalisme qui convient à la capitaine du 15 de France, Gaëlle Armet, 22 ans, encore étudiante en ergothérapie.
Ce qui est important aujourd'hui pour nous, c'est de trouver cet équilibre qui nous permet d'avoir un pied dans les deux et d'être au top. C'est vrai que parfois ça peut être un petit peu éprouvant, mais justement ce contrat il est là pour nous relâcher un peu cette pression. On a une rémunération, donc forcément ça aide beaucoup. C'est une réelle reconnaissance, je pense, pour le rugby féminin français.
Le rugby était le dernier des 5 grands sports collectifs en France à ne pas avoir amorcé sa professionnalisation pour les femmes.
Fanny Lechevestrier. Puis du côté des hommes, le sélectionneur Jacques Brunel doit annoncer ce matin le 15 de départ tricolore pour défier le Pays de Galles. Ce sera vendredi pour le premier match du tournoi Destination version garçon.
Merci Sébastien Legénie.